Bonsoir à tous. Bon, je m'appelle Zoé Spez. Bienvenue dans cette rencontre qui est intitulée Europe, un autre cadre. Alors, on n'a pas de micro. Si vous trouvez qu'on ne parle pas assez fort, vous pouvez nous le dire. On l'oubliera peut-être. Donc, première de ces bibliothèques de l'Odéon pour cette rentrée. C'est la deuxième année du cycle Les Dialogues du Contemporain, cycle conçu donc en partenariat avec l'Odéon et avec l'Institut français. Donc l'idée de cette rencontre, qui est une première rencontre donc, autour de la question de l'Europe, elle est venue du constat que les différentes crises donc sociales, politiques, institutionnelles, identitaires, qui traversent aujourd'hui le continent européen, on va en parler, elles sont nombreuses, interpellent tout le monde évidemment, mais en particulier aussi les chercheurs, les artistes, pas parce qu'ils sont les gardiens d'une culture avec un grand C et d'un esprit européen avec un grand E, mais parce que concrètement, tout ce qui se passe, les régissements autoritaires, les crispations, affectent directement leur création, leur pratique. Et donc cette rencontre, le but, c'est non pas peut-être d'invoquer une certaine idée de l'Europe, une certaine idée de la culture, mais plutôt d'interroger la réalité de l'Europe, la réalité des discours qu'elle produit aujourd'hui, et surtout, c'est quand même ça l'enjeu, de cartographier au sein de l'Union les défis, les dangers, et surtout les réponses, les initiatives qui traversent donc, notamment le champ de la culture, et qui peuvent représenter peut-être une opportunité de repenser à la fois l'Europe, sa représentation, et puis les moyens dont elle dispose. Donc, nous sommes en compagnie de vous quatre, donc Christine Cadou, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Paris 8. Vous travaillez notamment sur l'historiographie de la construction européenne. C'est bon. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, sur l'Europe en discours et sur les représentations de l'idée d'Europe. Vincent Carry, vous êtes à la tête d'Artifarti, donc là, pareil, vous me corrigez. Une association qui, au niveau national, mais aussi surtout européen, vous avez créé le Festival des Nuits Sonores à Lyon. Certains connaissent sûrement, avec un succès qu'on connaît. Vous avez été conseiller artistique de la Gaîté Lyrique à sa création en 2011. Et vous avez créé l'European Lab, il y a 6 ans, qui organise des espaces de réflexion sur l'avenir de la culture, qui est soutenu par l'Union européenne. Et dans la même ligne, en 2015, qui l'était. Ah ben ça, on va en reparler à la fin. Et le projet We Are Europe, donc projet européen de coopération qui rassemble festivals, des forums, dans un prochain programme d'échange et de co-création.
Il fait tout ça.
Il fait plein de choses. Très actif. C'est pour ça qu'il parle beaucoup aussi. Dimitri Telexakis, vous êtes né en France, de père grec. Vous êtes écrivain, vous êtes dramaturge. Vous écrivez régulièrement sur Mediapart, dans la revue Vacarme. Et vous êtes installé en Grèce donc, depuis 15 ans. Et en pleine crise, il y a 5 ans, vous avez créé avec votre compagne un lieu de création, militant, on peut le dire, à Athènes, qui fonctionne de manière, je crois, complètement autonome, loin des quartiers traditionnellement dévolus à la culture. Il s'appelle donc l'atelier de réparation de télévision, c'est ça son nom ? Voilà. Et enfin, Aïcha Gülsert, j'espère que je le dis bien. Vous êtes journaliste indépendante, vous avez grandi, vous êtes née à Istanbul, vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis, en France. Là, vous êtes revenue à Istanbul, vous collaborez avec notamment l'International Herald Tribune,
le Figaro. Puis devenu le New York Times.
Voilà, tout à fait. Et le Figaro aussi, vous intervenez
Madame
souvent. Madame Figaro. Et vous intervenez parfois sur Al Jazeera.
Sur Arte. Pas loin.
Donc, pour commencer, on a pensé qu'il était assez pertinent de commencer avec, comme point de départ, votre tribune, donc Christine Cadou, qui est une tribune que vous avez publiée dans Libération en juillet 2015, juillet 2016, juste après la campagne sur le Brexit, juste après le référendum, où vous notiez en fait combien, dans tous les moments de crise qu'on traversait l'Europe, que ce soit donc au moment de la crise avec la Grèce, en Grande-Bretagne, il y a eu des appels comme ça aux pères fondateurs de l'Europe qui se multiplient dans le champ politique, mais pas que, sans apporter réellement de solutions. Et on a l'impression qu'en fait, l'un des problèmes auxquels on se confronte, c'est que l'invocation de cette culture européenne un peu lyrique, un peu mythifiée, soit un peu en échec. Alors qu'est-ce que vous y disiez dans cette tribune ?
Alors j'y faisais déjà une blague très très drôle, qui était de comparer l'intérêt qu'on pouvait avoir pour l'Union européenne et l'intérêt qu'on pouvait avoir à regarder le patinage artistique. Qui a priori n'est pas une comparaison qui saute aux yeux, mais qu'en fait on regarde surtout le patinage artistique en espérant une chute. Et l'intérêt qu'on peut avoir pour l'objet européen, c'est que quand même il y a quelque chose qui se passe, et que le fonctionnement normal et habituel, pas très intéressant au quotidien, bah là du coup on le ressent avec le Brexit ou avec la crise migratoire, on le ressent de façon un petit peu plus quotidienne. Et évidemment, on essaie toujours de trouver des solutions à cette crise qui est supposée donc être un état transitoire, hein, qui va se résoudre à un moment donné, c'est ça que vous devez dire le mot, vers quelque chose de meilleur, une grande adhésion populaire, on l'espère, de toute l'Europe envers le projet européen. Et en général, dans ces représentations en discours de ce qu'est l'Europe ou de ce que devrait être l'Europe, c'est-à-dire un projet européen qui suscite l'adhésion de tous, eh bien, on croit trouver refuge bien souvent dans la figure des pères fondateurs, qui est un peu le dernier refuge quand tout échoue. C'est un peu là où on va se cacher, parce que personne n'ose critiquer les pères fondateurs. Qui oserait dire aujourd'hui que Jean Monnet était un passeur d'alcool frelaté, que Schuman avait voté les pleins pouvoirs à Pétain, etc. Seulement quelques micro-partis eurosceptiques, europhobes en général, mais mis à part eux, en général, ça c'est un discours qui est assez peu partagé, qui est peu enseigné et peu représenté. Et donc cette tribune en Libération revenait sur ce discours un petit peu convenu, il faut quand même bien l'avouer, sur ce roman européen. On parle beaucoup aujourd'hui de roman national, je pense que vous voyez ce à quoi je fais allusion. Et là où, du point de vue national, le roman national fait beaucoup réagir, on voit bien qu'il n'y a pas de consensus autour de ce que serait un roman unique avec des origines uniques de ce que serait le français aujourd'hui. Et bien curieusement, du point de vue européen, ce roman européen, il est peu contesté, aussi parce que peut-être on écoute peu les membres de la culture qui, eux, sont un petit peu plus sensibles à cet esprit très figé de ce que serait la construction européenne, qui part d'un endroit pour en arriver à un autre. Et si cette construction européenne est perturbée à un moment donné, bah, ça n'est qu'une crise qui va nécessairement se résoudre si l'on en revient à l'esprit des pères fondateurs. L'esprit de Jean Monnet n'est pas du tout l'esprit du traité de Lisbonne. Jean Monnet était contre le Parlement européen, contre l'idée d'un Parlement européen. Donc cette invocation sans cesse répétée à l'esprit des pères fondateurs, dont on pense qu'elle va résoudre la crise européenne, c'est là dont je voulais partir aujourd'hui, parce que c'est finalement un discours et une représentation qui dépolitise ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire qui nous retire la possibilité d'intervenir et de nous dire ce que peut être un futur ou des futurs possibles de l'Europe. Ce où la société civile, notamment, peut intervenir aussi dans ses choix, et on le voit bien avec le Brexit aussi, qu'on l'approuve ou pas. Ces choix sont toujours ouverts, et l'invocation de ces pères fondateurs, de cette histoire officielle de l'Union européenne, et de peu de secours, malheureusement, dans ce type d'épisode.
Voilà, postulat de départ, qui nous a paru intéressant. Alors, on a donc deux Français, enfin, trois Français, un Grec, et on a vous, à Echelieu, donc on va faire un pas de côté, parce qu'il y a la question de l'Europe. Mais on a quand même cette question de la Turquie, qui nous a paru importante, qu'elle existe aujourd'hui. Alors, vous êtes retourné vivre à Istanbul, vous êtes basé... de manière encore
plus supérieure. Je suis turque.
Vous êtes turque, non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous avez travaillé à l'étranger, et là, vous êtes revenu dans ce moment où il y a une crise. Alors, c'est toujours le terme de crise, il est intéressant, mais est-ce que c'est une crise? On va en parler. Politique, et pas que, assez grave après ce coup d'État manqué donc, cet été. Et alors, on a l'impression que là, comme dans plusieurs autres pays européens, on a l'impression très claire que les intellectuels, les journalistes, les universitaires, les artistes sont en première ligne. On a évidemment l'exemple d'Aslı Erdoğan, qui est écrivaine, romancière, qui est en prison pour des positions pro-kurdes qu'elle a depuis très très longtemps, qui s'est fait arrêter juste dans cette vague de répression. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Bonsoir. C'est un peu délicat un petit peu de parler de la Turquie parce que c'est mon pays, c'est ma terre patrie. Je viens d'arriver en France, ça fait une semaine, je repars samedi. Donc d'un sens, je me sens un petit peu comme... j'ai envie de vous raconter de jolies choses sur le pays qui m'a donné énormément. Mais il y a aussi la réalité. Donc parlons de la réalité. Et vous parlez de... Christine a parlé de crise. Je trouve que là où on en est aujourd'hui, en Turquie, le mot crise n'est pas assez dur. Je pense que la Turquie a perdu sa boussole et est en train d'aller vers un terrain qui n'est absolument pas illuminé, qui était comme ça depuis deux ans à peu près. Nous étions sur le chemin vers le néant, et avec le putsch manqué du 15 juillet 2016, donc il y a à peu près quelques mois, moi j'étais en Turquie, le gouvernement a en un sens carte blanche pour faire ce dont il a rêvé de faire. Ce qui est dommage, c'est que dans l'utopie, les gouvernements sont là pour prendre soin des citoyens, pour être sûr que nous avançons, et que j'ai peur que la Turquie est en train de régresser. Le rêve européen dont vous représentiez pour nous, nous nous en éloignons de plus en plus. Les journalistes sont de plus en plus emprisonnés. Là, depuis le putsch manqué du 15 juillet, il y a eu 42 passeports de journalistes qui ont été confisqués à l'entrée de l'aéroport. Je rentre samedi, je ne sais pas si je vais pouvoir ressortir, j'espère, comme ça je vous reverrai. Sinon, vous allez devoir venir nous voir à Istanbul, ce sera bien pour notre économie qui ne va pas très bien. Les écrivains, les éditeurs en chef reçoivent énormément de pression de la part du gouvernement. La place de la femme devient de pire en pire, dans le sens où, selon le président Erdogan, je ne suis pas une femme idéale turque. J'ai 36 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je travaille, je suis économiquement indépendante. Donc pour, j'imagine, l'Europe, c'est assez normal. Pour le pays dans lequel je vis, c'est vu comme une différence qui n'est pas le bienvenu. Ensuite, en ce qui concerne l'Europe, moi je suis née, j'ai grandi en Turquie et j'ai aussi un peu grandi avec vous parce que nous sommes obsédés par vous. Nous rêvons de l'Europe depuis que la Turquie est devenue une république avec Atatürk, le grand fondateur. Il s'est tourné vers vous en un sens. On a changé l'alphabet, on a fait en sorte que la femme, par exemple en Turquie, a eu le droit de vote 10 ans avant la France dans les années 30. Donc nous étions sur le bon chemin. Le problème, c'est que nous avons, dans les 15 dernières années, depuis que le parti politique AKP de Erdogan a pris le pouvoir, nous avons pensé que nous pouvions avoir un gouvernement sous un drapeau de islam modéré, auquel je n'y crois pas. Le moment où vous mettez une goutte de religion dans la politique, vous vous éloignez des lacs et des océans, de tout ce qui est laïcité. C'est un pays qui a un grand potentiel, mais c'est un pays qui est en train de s'enterrer lui-même. Beaucoup de jeunes et beaucoup de gens comme moi, qui plus ou moins font partie d'une population un peu, peut-être je dirais, éduquée. Moi, mes grands-parents ne savent pas lire et écrire. J'ai reçu une chance d'être devant vous, de parler ma troisième langue et de vous parler, d'être peut-être la voix un petit peu de mon pays grâce à l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation en Turquie aussi régresse. Elle est de plus en plus islamisée. Et parce que c'est plus facile, j'imagine, de diriger des ignorants que de diriger des gens qui peuvent se poser des questions.
Et alors, du coup, il y a eu une vague de répression là-dessus, justement. Il y a eu tout un mouvement qui a touché dans la répression. Les enseignants et les professeurs d'université.
80 000 personnes ont été licenciées depuis juillet 2016, dites parce qu'ils sont terroristes ou bien parce qu'ils représentent un danger à la sécurité de la nation. Parmi eux, par exemple, il y a 2 semaines, 11 000 enseignants ont été licenciés au Kurdistan. Je vais le mettre d'une façon un peu plus politiquement correcte, au sud-est de la Turquie, où il y a majoritairement des Kurdes. Et c'est une région qui a besoin énormément d'être enseignée. Donc imaginez que 11 000 enseignants, au début de la rentrée, ont été virés de leur travail en disant qu'ils sont partisans ou bien sympathisants de la question kurde, une question que la Turquie n'arrive pas à gérer. Il y a énormément de pression, il y a énormément de régression, il y a énormément de gens qui sont sous écoute, de journalistes étrangers qui sont expulsés du pays. La démocratie que pour moi l'Europe représente et ses valeurs un petit peu de lumière nous paraissent vraiment très loin, très très loin.
Alors justement, vous êtes dans une famille assez militante. Il y a eu, on l'a su, des coups d'État dans les années 80 en Turquie. Vous avez grandi dans une famille où il y avait des réunions politiques, réunions de débat. Vous me disiez que vous aviez l'impression que la répression telle qu'on la vit aujourd'hui, notamment dans les milieux dits d'élite culturelle et académique, est beaucoup plus violente, beaucoup plus tous azimuts.
Vous allez devoir payer pour mon analyse, hein. après ce soir. Je suis née en 1980, l'année du dernier coup d'État réussi en un sens en Turquie, mais qui est reconnu comme le plus sanglant en Turquie. Ma mère était journaliste politique et mon père était avocat, notamment des droits de l'homme. Nous avions des intellectuels, des journalistes, des écrivains, des militants qui se regroupaient chez nous, effectivement, que ce soit des Kurdes, des Arméniens, des Alevis, afin d'essayer de trouver une solution à ce joli pays qui, même dans les années 80 et 90, s'éloignait de ses valeurs. Moi, je me suis absentée pendant 15 ans parce que je n'y croyais plus, je n'avais plus la foi en mon pays, avec tous les gens que j'ai vus aux tribunaux, emprisonnés, les histoires que j'ai entendues de torture, d'humiliation, des femmes qui ont été violées en prison. Ça, c'est la Turquie des années 80-90. La Turquie de 2016 peut paraître comme une Turquie qui est plus moderne, certes, qui est économiquement bien, bien meilleure, je reconnais, qui a fait des efforts, des réformes, en pensant adhérer à ce rêve européen, mais qui aujourd'hui peut-être ne brûle pas les livres, mais brûle vraiment la foi et le courage de ces intellectuels, de ces gens qui essayent de faire bouger le monde. Je, personnellement, et ça je ne le dis pas en tant que journaliste, je le dis en tant que citoyenne, que témoin, que quelqu'un qui vit en Turquie, je ne pense pas qu'il y ait l'état de droit aujourd'hui en Turquie. Je pense que c'est un système absolument arbitraire et que j'entends à nouveau les mêmes mots que j'ai entendus il y a peut-être 25 ans. La différence, c'est que j'étais petite fille et je ne comprenais rien. Tandis que maintenant, quand on me parle de censure, quand on me parle d'emprisonnement, je comprends bien. Donc la Turquie est un pays qui a un grand potentiel. Malheureusement, c'est un cercle vicieux qui n'arrive pas à en sortir. Si je peux juste dire quelque chose de bien, c'est que nous sommes comparé à vous, nous sommes une république qui est jeune, nous n'avons même pas 100 ans, nous sommes un pays à 99% musulmans, avec 79 millions d'habitants, donc peut-être que ça fait partie de la norme d'une vague et que nous sommes obligés de passer par... Nous avions eu notre obsession avec la laïcité, je pense qu'en France vous comprendrez ce que je veux dire, et que peut-être nous passons maintenant par une phase où nous sommes obsédés par la religion, par l'islam, par le sunnisme, et que peut-être nous devons passer par cela afin d'atteindre une autre phase qui sera plus balancée. Je ne sais pas si moi je vais pouvoir le voir. Je pense que la Turquie, dans les années 2002, 2006, 2008, a fait beaucoup d'efforts, a fait 2 pas en avant. Je pense que la Turquie d'aujourd'hui a fait 6 pas en arrière. Mais nous gardons espoir, j'imagine.
Alors justement, on espère, on est là pour ça. Donc on sait que la Turquie montait quand même d'un certain repli national, montait des populismes. Alors vous, Vincent Carry, transition. Vous avez monté cette association Artifacti, vous avez lancé 2 projets dont vous allez nous parler, qui visent, alors je cite les textes, à remettre la culture au cœur du projet européen de manière pragmatique. Alors d'une part European Lab et We Are Europe. Alors vous estimez, vous me l'avez dit d'ailleurs, que jusqu'ici la mise en œuvre de l'idée européenne, notamment à travers la culture et les politiques culturelles, les institutions culturelles, globalement, peut-être pas un échec mais n'est pas une réussite absolue et qu'elle doit être mise en question. Vous pouvez développer ça.
Bien, bonsoir à tous, merci pour cette belle invitation. Ben, en effet, le bilan n'est pas très positif, alors c'est un petit peu difficile de passer après le constat qui vient d'être fait et qui est autrement plus compliqué que ce que nous avons à gérer au quotidien. Mais néanmoins, on est bien forcé. Alors moi, je parle depuis longtemps au nom des jeunes générations d'acteurs culturels, donc à force de parler pour eux, j'en fais plus tellement partie, mais je m'autorise quand même à en dire 2 mots. On fait le constat de générations qui sont, qu'on a employé le mot tout à l'heure, enfin je l'emploie toujours en anglais parce que je ne sais pas trop comment le traduire finalement, crisis native, enfin natif de la crise, qui n'ont baigné que là-dedans depuis qu'ils sont nés et depuis qu'ils sont intéressés par le fait culturel ou porteurs de projets culturels, qui sont aussi, et c'est un fait qu'on a pris en considération très tôt, des natifs européens qui sont nés avec un passeport européen et qui sont nés dans des formes de mobilité extrêmement facilitées, ouvertes, à la fois pour des raisons logistiques, mais aussi pour des raisons d'appétence, de goût pour la mobilité à l'intérieur de ce continent européen et au-delà. Et je précise d'ailleurs que quand je parlerai d'Europe, je ne parlerai jamais d'Europe ce soir dans les limites administratives de l'Europe, puisque ce n'est pas notre continent. Ils sont aussi, et ça a été un point pas négligeable, des digital natives, et donc des générations nées dans l'ère numérique, qui a probablement cristallisé beaucoup de choses dans la façon de faire, dans la façon de porter des projets culturels, dans la façon de s'engager, dans la façon d'essayer d'avancer sur ces questions-là. Et donc, ces générations d'acteurs culturels, elles ont tenté d'exister à un moment de notre histoire où, en France, qui est un pays extrêmement riche sur le plan culturel, à la fois du point de vue de son histoire aussi, du point de vue de ses moyens, qui est un pays tout à fait à part dans les moyens dont elle dispose pour construire des politiques culturelles, une vie culturelle, au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, etc., mais aussi partout en Europe, où elles ont été confrontées finalement à une sorte d'absence de dialogue avec les institutions et d'absence de réponse aux projets qu'ils avaient envie de porter, les choses qu'ils avaient envie d'inventer, les lieux qu'ils avaient envie d'ouvrir, les festivals qu'ils avaient envie de porter, les nouvelles institutions peut-être même qu'ils avaient envie de créer. Et face à ça, il y a eu une sorte de vide astral qui a été constitué autour d'une réponse essentiellement constituée sur le plan budgétaire, c'est-à-dire il n'y a plus de budget pour les nouveaux entrants. Alors je le dis de façon un petit peu caricaturale, mais c'est quand même une réalité, puisque j'ai eu la chance de devoir argumenter sur ce genre de discours pendant très longtemps. Et donc il a fallu, pour toutes ces générations, se construire autrement, avec d'autres types de montage financier, donc aussi intellectuel, d'autres perspectives, d'autres. Alors en se rappelant toujours aussi avec cette ère digitale, peut-être des constructions plus en réseau, avec qui font plus appel à des solidarités, plus appel à de la micro-création du projet, parfois moins ambitieux, mais plus relié à d'autres projets, donc une vision totalement différente de la culture. Et nous, on a pris acte de ça, on en a fait le constat il y a une quinzaine d'années, quand on s'est nous-mêmes lancé. Et quand nous, on a créé nos premiers projets, notamment le Festival Nuit Sonore à Lyon il y a 15 ans, notre structure a à peu près 20 ans, mais elle a existé un petit peu avant dans l'underground, comme on dit. Elle a eu la chance d'avoir des collectivités locales à peu près réceptives, et on s'est retrouvés moins en difficulté que beaucoup d'autres.
Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous faites comme conseil de ce point de vue-là ? La collectivité locale, c'est un interlocuteur qui existe.
Ouais, qui existe de façon très disparate sur le continent européen. C'est-à-dire que ça va d'attention plutôt bienveillante au projet et avec parfois quelques moyens jusqu'à rien du tout. Mais de toute façon, ça n'est pas le seul rôle des collectivités locales, évidemment, d'appréhender cette question-là. Le vrai problème, c'est qu'il y a un gouffre générationnel, on va dire, d'une vingtaine d'années à peu près, où les projets se sont construits exclusivement, non pas en opposition au schéma institutionnel, mais en dehors. Alors parfois en opposition, mais en tout cas très majoritairement en dehors. Et donc évidemment, dans un certain nombre de pays, je suppose qu'on parlera un peu de la Grèce ce soir, entre autres, encore une fois, on a une définition de l'Europe qui est plus large que ses frontières administratives. On travaille beaucoup avec le pourtour méditerranéen, avec les pays de l'Est, etc. On fait le constat de générations qui se sont construites autrement. Et l'intérêt de ça, réfléchir à comment ça peut être utile finalement, comment cette génération peut nous être utile face aux problématiques européennes qu'on a et dont on fait tous le constat et qui ont été résumées en introduction, c'est-à-dire des poussées populistes extrêmement fortes partout, un fatalisme qui est extrêmement inquiétant, une remise en question de beaucoup de choses qui nous semblaient acquises. Cette génération a les avantages j'allais dire, des difficultés de son émergence et des difficultés liées à la façon dont elle a avancé depuis deux décennies. Elle est, par exemple, extrêmement près du terrain. Elle est très européenne par nature, et même si elle dénonce très très majoritairement les conditions de gouvernance de l'Europe institutionnelle, elle est très profondément européenne. Et avec cette double qualité-là, je crois qu'elle peut apporter un certain nombre de réponses, et en tout cas sa contribution me semble absolument déterminante. Mais ça suppose des changements assez radicaux de stratégie.
Ça, on va en reparler après, justement. Alors du coup, présente, directrice. Donc vous êtes retournée en Grèce il y a 15 ans, mais vous avez lancé en Grèce au moment où il y avait cette crise, donc on peut dire à peu près totale, budgétaire, économique, sociale, politique, grande défiance croissante envers la chose publique et des engagements de l'État. Alors vous utilisez le terme d'évidement de l'État, vous m'avez dit ça. Aujourd'hui, que reste-t-il de la Grèce et que reste-t-il de l'État, peut-être, dans ce pays, notamment en matière de culture? Comment vous avez conçu votre projet dans ce contexte-là? Peut-être rappel du contexte.
Le contexte, c'est que on a créé un lieu qui, en 2012, le 1er novembre 2012, un petit lieu de création avec Fotini Banou. C'est un projet qu'on a lancé à deux. À une époque où déjà il n'y avait plus du tout de subventions, il n'y avait plus du tout de politique culturelle de création. C'est-à-dire que tout ce qui était du domaine de la création, les troupes de théâtre, les petites troupes de théâtre, les troupes de chorégraphie, les artistes visuels, le domaine de la vidéo et tout ça, étaient dans une espèce de vide institutionnel. Et également, évidemment, les lieux de création, qui en fait, des petits lieux de création qui ont commencé à être créés par des artistes à l'époque, comme le nôtre, c'est-à-dire en répondant d'abord à nos besoins, c'est-à-dire qu'on cherchait un lieu pour faire des répétitions. On avait une troupe de théâtre qu'on a toujours. Il se trouve que dans la famille de Fotini, il y avait un lieu en sous-sol, à côté de l'endroit où on habite, à Kipsali, dans un quartier populaire de, disons, de la deuxième couronne autour du centre, un quartier qui a été extrêmement frappé par la crise depuis 2008-2009. Et donc on a créé ce projet d'abord parce que d'une certaine façon il n'y avait plus rien. Au niveau économique, ça devenait vraiment vraiment difficile de penser à pouvoir louer un espace pour faire des répétitions, etc. Et donc on a créé ce projet. On a créé cet espace d'abord pour répondre à notre envie de jouer, de monter des pièces, d'écrire, etc. Et puis peu à peu, on s'est rendu compte que cet endroit qu'on était en train de construire avec notre travail, la peinture, etc., bon, pouvait accueillir du monde et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de troupes de théâtre qui se retrouvaient, qui étaient intéressées. Le contexte, c'est d'une certaine façon un effacement complet de l'État, du domaine de la création. Tout un tas de petits lieux alternatifs à toute petite échelle qui se créent dans différents quartiers d'Athènes. Et en même temps, parallèlement à ça, une montée en puissance des fondations privées, et notamment de la Fondation Onassis dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire le domaine du spectacle vivant, disons, qui ont commencé d'une certaine façon à prendre la place de l'État en termes de financement, d'accueil, de lieux, etc. C'est un paysage qui est en fait extrêmement politique et qui nous a conduit de façon intuitive, instinctive, je ne sais pas, et puis en même temps parce que c'était notre désir, avoir une pratique à la fois artistique d'accueil des troupes, des chorégraphes, des artistes qui font de l'improvisation musicale, de la musique électronique, de la musique expérimentale, etc. Et en même temps une pratique militante d'organisation, par exemple, de festivals pour récolter de l'argent pour le collectif d'avocats, par exemple, qui a porté plainte contre le parti néo-nazi, de récolte, de collecte de biens pour les réfugiés, pour les, d'une façon générale, pour toutes les personnes en grande précarité dans le quartier. Et assez paradoxalement, puisqu'on n'a absolument aucun moyen de... On n'a aucune subvention, on n'a aucun moyen, ni privé, ni public. On a réussi à survivre. On a réussi à survivre, on a réussi à faire vivre le lieu, en fait. En travaillant énormément, en étant de plus en plus polyvalents, tous les deux, c'est-à-dire chacun faisant quelque chose comme 5 ou 6 boulots en même temps pour servir, pour faire vivre le lieu. Allant du ménage à la comptabilité, aux médias sociaux, à la photographie, enfin tout ce qu'implique en fait quasiment un lieu de création. Et bon, énormément de difficultés et en même temps la satisfaction, disons, d'avoir réussi à, d'avoir un retour, d'intéresser de plus en plus de gens. Et de créer quelque chose qui est un peu inédit en Grèce, mais qui répond absolument à la crise. Un lieu de parole, un lieu de rencontre, un lieu où on a des rapports personnels avec tous ceux qui viennent. On discute, on s'arrête, on discute après les représentations, on discute beaucoup de politique, évidemment. Quelque chose d'une certaine façon qui... c'est extrêmement précaire, c'est extrêmement fragile. On sait bien que ça peut tenir une semaine, ça peut tenir un mois, ça peut tenir un an, ça peut tenir 3 ans, on ne sait pas. Ça peut s'arrêter très vite. Et en même temps, c'est la seule issue. Enfin, c'est vrai que si on n'avait pas nous créé ce lieu, on serait peut-être parti de Grèce depuis 2 ou 3 ans.
Alors du coup, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'on a l'impression qu'en parallèle de cet effondrement de l'État, il y a une espèce d'effervescence en Grèce, de ce point de vue-là, faite d'acteurs comme vous, qui existent aussi, qui survivent aussi, on va dire.
C'est un projet politique et artistique, c'est-à-dire que c'est un projet qui répond d'abord au besoin de faire quelque chose, au besoin d'imprimer sa marque dans la société, de ne pas laisser son ou ses talents inexploités, et d'avoir une voix. Au niveau financier, au niveau du salaire, c'est très très peu. Après 4 ou 5 ans de travail, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre d'un minimum de survie. Mais ça répond quand même à la première raison pour laquelle finalement la scène grecque est restée vivante, à un besoin d'inscription et au besoin de parler, au besoin de ne pas être bâillonné par la pénurie, par le dénuement, par l'absence de subventions, par l'absence de revenus, etc. Alors il faut savoir que c'est quand même des conditions de travail pour la plupart des comédiens en grec, la plupart des musiciens, qui sont quand même toujours, toujours, toujours sur le fil du rasoir. On travaille avec, par exemple, des comédiens affirmés, confirmés, qui ont, je ne sais pas, peut-être 15 ans de représentation derrière eux, qui maintenant travaillent dans des... 5 jours par semaine, dans des cafétérias comme serveuses, des amis collaborateurs qui montent des projets absolument incroyables dans l'espace, qui conjuguent le son, la musique, la vidéo et qui arrivent à transformer complètement notre espace et qui en même temps travaillent dans le bâtiment. C'est intéressant, évidemment. Mais ça, non, c'est vraiment intéressant parce que ça donne. Il y a une espèce de confrontation constante avec le réel économique, avec le réel politique. Et donc, une parole politique, à mon avis, qui, venant du monde artistique, dans certains cas, dans beaucoup de cas, a un autre impact, a une autre force. Je dirais qu'aujourd'hui, à Athènes, il y a une vingtaine de lieux, disons alternatifs, souvent politiques, et qui fonctionnent un peu comme nous, c'est-à-dire sur un mode plutôt associatif et sans budget. sans budget. Alors ça, c'est commun au lieu et c'est commun aux troupes, aux compagnies. Et donc, nous, la façon dont on travaille, c'est qu'en fait, on partage la billetterie. On fait 50-50 et on espère qu'il y aura du monde. Quoi.
Mais alors du coup, ça, on a l'impression, pareil, Vincent Carry, vous, vos deux projets, c'est des espaces de co-création, on l'a dit, peut-être que vous pouvez revenir précisément notamment sur ce qui se passe entre les festivals que vous avez fédérés. Et il y a cette idée de forum, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a forcément un volet qui remet en cause, qui s'interroge en tout cas, sur le mode de gouvernance qui a un discours, enfin qui a un enjeu politique aussi derrière toutes ces initiatives de culture, ces fameux crises négatives.
L'enjeu politique, il est à plusieurs niveaux. Il y a à la fois ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire ne pas laisser la question de la précarisation du secteur culturel en Europe comme une fatalité et essayer d'inventer des modèles pour trouver des chemins et avant toute chose porter les projets, ce qui était évidemment une évidence, c'est-à-dire que quand on a ça dans le cœur, quand on a envie de porter un projet artistique, culturel et que c'est une passion, on va de toute façon trouver le chemin. Donc on a affaire à cette génération voilà, qui a dû inventer plein de nouvelles modalités, qui en ce sens d'ailleurs est créative, y compris sur le plan entrepreneurial d'ailleurs, ce qui la rapproche, change totalement d'axe d'ailleurs, hein, puisqu'il y a deux sujets aujourd'hui qui sont consubstantiels à nos modèles, c'est l'audience, ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire on espère qu'ils vont venir, ça c'est sûr, elle n'était pas absolument une évidence auparavant, elle l'est devenue, c'est-à-dire que quand l'audience représentait quelques pourcentages très minimes du modèle économique, aujourd'hui dans nos modèles économiques à nous, elle en représente une écrasante majorité. Et puis, à un autre niveau politique, c'est que c'est une génération qui n'a pas envie, je crois, de se laisser ensevelir par la négation de toutes ses convictions dans une Europe qui est cartonnée, pilonnée 24 heures sur 24 par la négation de l'ouverture. Et c'est un sujet qui n'est quand même pas anecdotique. Donc, quand on a 25, 30, 35, 40 ans aujourd'hui, c'est relativement rassurant de voir qu'une immense majorité des acteurs en présence ont envie de se lever pour, de façon très connectée, très en réseau, et c'est à mon avis un point absolument essentiel, c'est la grande chance, on va dire, de cette crise. Alors moi, pardon, j'ai pas l'expertise pour savoir s'il faut la qualifier de crise ou pas. La seule chose, c'est que si c'est une crise, en effet, elle apparaît très très longue. L'ère numérique dans laquelle on est, la transition numérique, est un atout de résistance absolument évident parce qu'elle change totalement la relation à la solitude de son territoire. Et ça, c'est un élément, à mon avis, crucial. C'est-à-dire que si on devait vivre la même chose à l'ère du courrier postal ou du fax, ce serait encore une autre histoire. Voilà. Or là, en l'occurrence, on a ce point du triangle, la transition numérique, qui est un point, à mon avis, absolument essentiel. Donc les deux choses. Bon, mais ça, c'est relativement anecdotique. On a créé un forum il y a 7 ans qui s'appelle European Lab, qui a pour vocation de rassembler ces acteurs, de les mettre en réseau et précisément de les sortir de leur solitude dans la mesure du possible, en travaillant avec eux, en créant du multilatéralisme un peu le plus possible dans tout ça. Et donc chaque année, on rassemble à Lyon, d'abord une fois par an, pour un grand forum un peu totem. Et puis d'autres forums, un à Tanger au Maroc, un à Paris chaque année. Là, on va en faire un à Bogota et puis un à Séoul en Corée du Sud au mois de décembre parce qu'on partage aussi des constats avec des amis sur bien d'autres continents. Et puis donc, on les amène à réfléchir ensemble, travailler ensemble, essayer de trouver des solutions. Donc dans des choses aussi banales que le partage du savoir et d'expérience. Et puis l'autre chose s'appelle We Are Europe, c'est le constat de 8 festivals tous issus de la scène électronique, donc de la génération techno pour faire très très simple, qui ont décidé que leur rôle de diffuseur d'une scène artistique n'était pas satisfaisant s'il était totalement dépolitisé. Et moi je viens d'une culture qui a toutes les vertus de l'hédonisme et de la joie de vivre, du partage, de la nuit, de beaucoup de choses très positives, d'une très grande ouverture d'esprit. mais qui a été une génération paradoxalement assez peu engagée au début. C'est-à-dire que ça n'a pas été une génération qui s'est construite sur une révolte, voilà, comme le punk par exemple, ou d'autres mouvements esthétiques comparables. Mais néanmoins, elle a pris conscience quand même de son environnement, évidemment, et on a choisi 8 festivals qui tous avaient choisi, à un moment donné dans leur vie, de mettre en avant les idées et de créer un forum à l'intérieur du festival. Donc 7 plus 1, en l'occurrence en Grèce, à Thessalonique, c'est un festival qui s'appelle Reworks, qui lui, pour des raisons budgétaires, souhaitait le faire mais n'avait pas pu le faire. Et dans le cadre de ce projet-là, on l'a monté. Mmh. En tout cas, il y avait cette volonté pour les 8 d'avoir cette double casquette, entre guillemets, festival et forum. Et donc, de profiter aussi de la mobilité synchronisée des artistes, des publics et des professionnels, entre guillemets, de la culture, en tout cas des acteurs culturels, pour essayer de produire quelque chose.
Alors justement, je pose la question, parce que là, je reviens en arrière, mais on a l'impression, quand je vous entends parler, alors vous, on est en Grèce, il y a un gros effondrement de l'État, mais que l'institution culturelle et les moyens considérables, notamment qu'on a en France, comme si elle ne faisait pas ce boulot-là, enfin, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas opérant dans le discours qu'elle produit.
Ah bah c'est une évidence, bien sûr, et c'est un constat qui est, encore une fois, qui n'est pas totalement uniforme. C'est-à-dire que, notamment quand on regarde les collectivités locales, il y a des grandes diversités d'engagement, de volontarisme sur le sujet de la jeunesse, des nouvelles formes créatives, des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, etc. Il y a des territoires où ces sujets-là ont été totalement abandonnés depuis 20 ans. Mais encore une fois, quand on objecte à l'ensemble de ces porteurs de projets les moyens disponibles ne permettent pas d'accompagner leurs projets, et ça pendant un temps très long, on rentre dans des formes de nécrose qui sont évidentes et d'un trou générationnel très significatif, en tout cas dont on peut faire le constat quotidiennement. C'est-à-dire que les moyens dont ils ont eu auxquels ils ont eu accès ont été, même quand ils ont existé, très limités. Donc, ça, c'est une évidence. Et il a fallu, en effet, se substituer dans un grand nombre de cas. Et encore une fois, nous, il se trouve qu'on a eu la chance de pouvoir démarrer. Mais je pense que les projets comme les nôtres, 15 ans, 16 ans plus tard, arriveraient aujourd'hui, ne seraient pas financés du tout. Alors que nous, on a réussi au moins à rentrer dans des logiques d'amorçage qui ont fait qu'on a pu, entre guillemets, passer un petit palier qui nous a permis ensuite d'enclencher une dynamique vertueuse, de trouver des ressources et de se battre pour ça. Alors nous, une petite différence avec l'expérience que tu as présentée, c'est que nous, on fait énormément appel à la diversité des ressources, c'est-à-dire qu'on essaye quand même d'avoir, dans un certain nombre de cas, une part de financement public, et puis on va aussi chercher des financements privés, et surtout, on va chercher notre audience, quoi.
Alors, du coup, vous disiez aussi, peut-être, ethnocentré aussi, la France, très très nationale, qui ne regarde pas l'institution culturelle, qui ne regarde pas aussi l'aspect européen dans les discours, dans les artistes, etc.
Du point de vue du ministère de la Culture, ça me paraît une triste évidence, et ce depuis très longtemps. Hein, une vision ramassée autour de notre incroyable exception française, disait notre père politique, le monde entier a les yeux tournés sur nous, quoi. Donc on vit avec cette conscience permanente, notamment à l'endroit de la culture. Bon, ça me paraît être un sérieux problème, mais en l'occurrence, c'est un problème qui n'appartient pas aux nouvelles générations. Je crois que, je ne veux pas dire que tout le monde s'en fout, mais pas loin, quoi. Et en tout cas, il y a une ouverture d'esprit et un volontarisme pour casser ça très net, quoi.
Christine Cadeau, ça vous inspire quoi, ça?
Oui, parce que je crois que dans des secteurs un tout petit peu connexes, en fait, au monde de la culture, moi, je pense aux musées. Et dans les musées en France, quand on vous raconte ce qu'est l'Europe ou ce qu'est supposé être l'Europe, tout comme dans les journées de l'Europe qu'on fait tous les 9 mai, le francocentrisme est absolument présent à tout bout de champ. C'est-à-dire que regardez ce qu'est l'Europe, alors vous allez avoir un panneau sur Schumann, un panneau sur Monet, un panneau sur l'Eurostar, le Thalys, parce que bon, quand même, il passe en France, sur Ariane Espace, évidemment, parce que quand même, c'est un petit peu à Toulouse aussi. Et c'est quand même d'abord très franco-centré. C'est-à-dire que, mais c'est pas spécifique à la France. C'est-à-dire tous les pères fondateurs, toutes les nations européennes cultivent leurs pères fondateurs européens. Alors, vous avez les Italiens avec De Gasperi, Spinelli, vous avez les Allemands avec Adenauer, vous avez les Anglais, certains en tout cas avec Churchill, etc., etc. Puis on les utilise un peu comme on veut pour justifier le Brexit ou non d'ailleurs. Donc ça marche toujours un petit peu de la même façon. Ce qui manque évidemment dans ces réalisations-là, dans l'espace public, c'est la vision transnationale. C'est-à-dire que le jour où, dans les manuels scolaires français, on apprendra qu'il n'y a pas que Monet et Schumann et qu'il y a un petit peu autre chose, ça fera déjà un peu la différence. Le jour où on apprendra que le 9 mai, pour nous, jour, journée européenne, synonyme de liberté, d'un plus jamais ça en Europe, pour d'autres membres de l'Union européenne actuelle, c'est en fait l'entrée des chars soviétiques à Prague, ce qui correspond à ce qu'ils appellent une autre occupation, à une double occupation. Après l'occupation nazie, bah, c'est une occupation soviétique. Entre parenthèses, ils appellent ça le communisme, pour beaucoup d'entre eux. Ils ont des musées de l'occupation communiste, là où nous, on appelle plutôt ça le stalinisme. Donc cette incompréhension face à une autre partie de l'Europe qui célèbre d'autres événements culturels, une autre culture de ce qu'est l'Europe et de ce que serait leur rôle et leur place en Europe, là, il y a quelque chose qui n'est pas seulement d'ailleurs le propre de la France, mais de l'Europe occidentale en général. L'Europe occidentale, culturellement, est assez peu au courant de ce qui se passe à l'est de Berlin, on va le dire comme ça, et tout ce qui relève finalement aussi de la montée des populismes en Europe centrale, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre si on ne comprend pas ce qu'ils ressentent aussi à nous écouter, nous Français, lorsqu'on parle d'Europe. Lorsqu'on parle d'Europe qui est relancée par la vertu morale de la France, première fondatrice avec d'autres, mais quand même première, c'est un discours qui ne peut pas passer. Dans un discours qui fonctionne, on ne doit pas forcément proposer que l'Europe soit absolument dirigée seulement par la France, parce qu'elle serait la première à exister en Europe.
Voilà, on va revenir à ça, mais on va faire un petit détour dans la question de la cartographie. Vous en avez parlé tout à l'heure, Dimitris. Il y a donc les institutions, avec ce petit problème peut-être de discours et de regard. Il y a ces fameux collectifs collectifs dont vous faites parler, dont vous faites partie, et il y a ces fameuses fondations privées qui prennent beaucoup de place, parce qu'il y a quand même un mouvement général de recul, en tout cas d'effacement, de retrait de l'État, notamment du champ de la culture. Il y a ces fondations privées qui prennent beaucoup de place en Grèce, il y en a aussi en Turquie. Il y a eu une montée, je crois, à Şegül dans les années 90-2000, en puissance de fondations privées avec plusieurs familles qui ont ouvert pas uniquement des musées, des fondations, des biennales, des festivals, des centres de recherche, des universités. Où on en est de ça et comment est-ce qu'elles se comportent? Est-ce qu'elles représentent un espoir? Comment elles se comportent dans la situation que l'on connaît actuellement?
Alors d'abord, je suis heureuse d'entendre que vous n'allez pas très bien non plus. Donc je me sens moins comme l'intrus. Et quand j'entends mon voisin, et je veux dire mon voisin, pas là Dimitri, mais mon voisin la Grèce comparé à la Turquie, je voulais rebondir tout à l'heure parce que ça a fait écho. Dans le sens où, et je repasse, c'est vrai que dans les années 90-2000, de grandes familles d'affaires, je dirais peut-être pour vous ce serait comme les Bolloré, etc. Mais nous, chez nous, c'est les Koch, Savanje, Zadjibashe, donc les grandes familles d'affaires qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont aussi un certain niveau d'éducation, d'élitisme, etc., ont donné beaucoup d'argent, ont créé des fondations privées, des musées privés, et même il y a eu des partenariats avec les États-Unis, avec des musées aux États-Unis et même en France avec le Louvre, etc. Ça, c'était jusqu'en 2010, d'accord ? C'était joli. En 2000, ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, c'est que je pense que pour comprendre les actions de Erdogan, il faut comprendre l'homme. Président Erdogan est un homme qui vient d'une classe sociale assez pauvre. Nous ne savons toujours pas s'il a vraiment fait des études universitaires ou pas. C'est une zone d'ombre et pourtant dans la constitution turque, c'est dit que si vous n'avez pas achevé vos études universitaires, vous n'avez pas le droit d'avoir le siège de président. Et il a une complexe infériorité en ce qui concerne l'art, la culture. C'est un domaine auquel il ne s'y intéresse pas. Et donc, il fait en sorte que le peuple n'a pas accès à cela. J'ai des faits pour vous en parler. Dans les années 2008, 2007, 2010, en Turquie, il y avait un boom, en un sens, un peu comme en Grèce, où il y avait énormément de galeristes, de petites galeries, des jeunes qui revenaient à la terre patrie pour créer des forums, un peu comme des endroits que Dimitri il décrivait, où il y avait énormément d'énergie, où ça bouillonnait. Où il y avait aussi même des artistes turcs qui étaient partis à l'étranger et qui étaient revenus au lieu de rester dans le confort de l'Europe ou des États-Unis. Aujourd'hui, tout ça, c'est mort. D'ici le mois de décembre, je pense que plus de 50% des artistes que je connais qui, depuis mon enfance, se seront exilés en Europe. Il n'y a plus les foires dont nous étions très fiers d'accueillir en Turquie. J'essayais tout à l'heure d'essayer de convaincre Vincent de peut-être amener après Tanger l'un de ces festivals à Istanbul, peut-être après ce que je vais dire, il va changer d'avis. Mais le gouvernement ne donne plus de soutien ni aux artistes turcs, et en plus il en fait en sorte que tout ce qui est Art International, par exemple, ou bien Çanakkale Festival, qui était une foire d'art qui était assez renommée, ne se déroule pas à cause des sujets qu'ils ont choisis, que ce soit par exemple le sujet des réfugiés ou de la liberté d'expression. Récemment, je pense que c'est l'exemple le plus grand que je peux vous donner, le ministère de la culture en Turquie est devenu le ministère de la culture et du tourisme. Je ne sais pas dans quel autre pays vous mettrez dans le même cadre la culture, l'art et aussi le tourisme. Ça montre pour moi la vision du gouvernement de si cette culture, si cet héritage ottoman ou byzantin peut nous servir afin de ramener des touristes, afin de soutenir notre économie. Et là, vous êtes les bienvenus. Si cela veut dire que des peintres, des photographes, des metteurs en scène, des écrivains vont créer une pièce de théâtre ou bien vont créer un œuvre auquel nous allons pas comprendre. Alors cet espace va être ne nous sert à rien, n'est pas utile. Mais je pense, et peut-être c'est mon optimisme qui s'envole un petit peu là, je pense qu'un artiste crée, en tout cas des interviews que moi j'ai fait avec les artistes, quelle que soit la circonstance. L'exil n'est pas non plus un voyage qui est très facile à faire. Qu'il se sente exilé dans un autre pays ou dans son propre pays, un artiste trouvera toujours un endroit où écrire cette pièce de théâtre, où faire cette pièce. Et je pense, et des gens que je côtoie un petit peu en Turquie, qu'il y a quelque chose de assez fort qui va sortir de ces jours d'état d'urgence et de coup d'état avorté et de pression dont nous sommes en train de passer. En ce qui concerne les fondations privées dont nous parlions, ça reste des hommes d'affaires. Bien sûr qu'ils ont une sympathie et un attachement de cœur à tout ce qui concerne l'élévation de l'âme pour passer par l'art. Mais si ça veut dire que des négociations qu'ils vont avoir avec le gouvernement ou avec des business deals qui doivent se faire, si ça va mettre une ombre sur cela, je pense que s'ils sont sur un navire en un sens qui est en train de se couler, ils sont en train de choisir est-ce qu'on va faire en sorte que la culture et l'art en Turquie fonctionnent, ou bien est-ce qu'on va choisir notre business. J'imagine que vous savez quelle sera la réponse. Ça reste des hommes d'affaires.
Alors vous, du coup, Dimitri, vous décrivez une situation qui est un peu différente, quoique similaire, mais quand même différente, notamment avec une des fondations dont vous parlez, qui a une vraiment grosse montée en puissance en Grèce. C'est ça que vous avez.
Je riais avec l'expression « élévation de l'âme ». Je regardais l'autre jour une interview avec Bernard Arnault, au moment de la fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne. Et alors à un moment il a cette expression très belle, il dit on transcende le cash flow. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique pour résumer un peu ce que, alors de façon très expéditive évidemment, ce que c'est qu'une J'ai trouvé ça très beau parce qu'effectivement, on a une espèce de néolibéralisme qui est en train de détruire la planète. Et puis, évidemment, ce qui lui manque, c'est la transcendance. Enfin, on a une espèce de crise économique larvée qui parcourt le monde, qui voyage un peu partout et puis qui, en fait, est en train de s'installer de plus en plus dans la durée. Donc, effectivement, qui cesse quasiment d'être une crise pour devenir quelque chose d'autre. Enfin, il faut quand même rappeler que la crise en question, elle commence en 2008 et que... Depuis 2008, en tout cas en Grèce, elle a quand même réussi à tout saper, disons. Donc on a ce phénomène-là, et puis on a évidemment cette envie de transcendance des grands financiers, des grands banquiers, des grands entrepreneurs, des gens qui peuvent réellement infléchir l'économie d'un pays, déplacer tout d'un coup une entreprise avec 1000 employés, la vider complètement, la prendre, la reconstruire 3000 km plus loin, etc. Bon, ça c'est pour Bernard Arnault. En Grèce, c'est une situation assez précise en fait. Il faut voir chaque fois qu'on a des fondations de ce type-là, que ce soit en Italie, la fondation Prada, que ce soit... En fait, à chaque fois, il faut quand même regarder le contexte politique, notamment national. Et en Grèce, il est vraiment particulier, puisque c'est un effondrement complet de la politique culturelle. Et en même temps, la construction de la grande fondation Onassis, qui, d'une certaine façon, se spécialise à partir de 2010, disons, plutôt dans le spectacle vivant. On a la fondation Niarchos, Stavros Niarchos, qui se spécialise, qui commence vraiment à œuvrer maintenant. C'était un très 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 grand chantier et qui d'une certaine façon se spécialise dans la Bibliothèque nationale. Donc on a une fondation privée qui prend d'une certaine façon en charge la Bibliothèque nationale et l'Opéra national. Une troisième fondation intéressante, alors ça c'est deux fondations qui ont été fondées par des armateurs. Donc si vous voulez, le secteur capitalistique historiquement...
C'est votre spécialité.
Très très important en Grèce, et il se trouve que c'est vraiment un secteur de la finance. Enfin, c'est un secteur d'économie mondialisée, société offshore.
Mais pas
impacté par exemple. Onassis, c'est je crois quasiment le gars qui a inventé les pavillons de complaisance, si vous voulez. Donc... on est vraiment à la racine du capitalisme financier. Niarchos, c'était son grand adversaire dans le domaine de l'économie des armateurs, la marine marchande, disons. Et le troisième, alors c'est une fondation un peu plus discrète et qui est aussi, pour des raisons, je pense, stratégiques de politique, plus discrète, qui s'appelle la fondation Neon. Elle a été montée par celui qui était en fait l'ancien représentant, l'ancien président de l'équivalent du MEDEF grec, qui s'appelle Dimitris Daskalopoulos. Donc c'est quelqu'un qui vient du monde de l'industrie alimentaire. Elle avait la plus grande, si vous voulez, société d'industrie alimentaire grecque. Et c'était par ailleurs un collectionneur d'art contemporain très important. Et du jour au lendemain, 2 années avant l'éclatement de la crise, il a tout vendu, cette espèce d'empire industriel qu'il avait. Il a tout vendu, notamment à Nestlé. Donc il avait une très très grande marque de lait qu'il a vendu à Nestlé. Il a vendu toutes ses sociétés et il a fondé une société, une fondation d'art contemporain. Donc c'est assez étonnant. Si vous voulez, il y a toute l'économie d'un pays qui s'écroule. Le gars qui est évidemment un grand cerveau capitaliste, qui voit venir le truc, qui vend tout, et qui se rabat sur l'art contemporain. Et c'est assez étonnant, d'autant plus qu'il ne se rabat pas sur une valeur matérielle, c'est-à-dire sur des tableaux qui sont déjà dans un marché de l'art... constitué avec des plus-values incroyables, avec un côté complètement d'économie boursière. Il se rabat lui aussi en partie sur ce truc immatériel qui est la performance, la chorégraphie, etc. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettent tous ces gens des millions d'euros dans quelque chose qui est immatériel. Et la réponse en Grèce est assez, assez singulière à mon avis. Ils vont pas se refaire. Ils vont pas récupérer directement d'argent sur leur investissement. Par contre, ils se posent à un point absolument clé de la société grecque. Ils récupèrent les artistes. Ils récupèrent les artistes les plus novateurs, qui deviennent d'une certaine façon, qu'ils le veuillent ou non, leurs employés, c'est-à-dire que c'est la seule fondation, la fondation Onassis par exemple, qui paye les répétitions, qui paye les représentations, qui permet de faire une production digne de ce nom, à l'exception évidemment de... Bon, il y a une exception faite du Théâtre National et du Festival d'Athènes, qui sont encore, disons, les vitrines d'une politique publique dans le domaine. Et en même temps, ils développent toute une activité d'enseignement, de bourse, dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine de la science. Donc d'une certaine façon, ils financent, ils se positionnent, comme on dit, chez ces gens-là, dans quelque chose qui est quand même l'innovation et les cerveaux, et le savoir. Et en même temps, ils font autre chose. La fondation Onassis en question, et aussi forcément la fondation Iarchos, ils interviennent dans le processus de reconfiguration de la ville. Puisqu'en même temps, il y a tout un projet urbanistique, architectural, et donc forcément commercial, avec énormément de conséquences dans les années qui viennent pour Athènes, et un projet qui s'appelle Rethink Athens, donc repenser Athènes. Et là, on voit que la Fondation Onassis finance le projet, disons, est vraiment dans un rôle de soutien extrêmement fort. Et c'est un projet qui, d'une certaine façon, conduit à remodeler tout le centre d'Athènes. Donc elle se positionne aussi un secteur clé, qui est comment est la ville, comment elle est dessinée, qu'est-ce qu'on a comme type de commerce à tel endroit, qu'est-ce qu'on a comme type de lieu culturel à tel ou tel autre endroit dans le centre. Et donc ça a évidemment une incidence absolument directe et énorme sur le marché immobilier. Donc là, je pense que il faut lire, si vous voulez, bon, je vais abréger parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en gros, je pense que le mécanisme est celui-ci. Ce sont des gens qui peuvent faire vraiment des investissements, même sans retour direct sur investissement. C'est-à-dire que ce sont éventuellement des gens qui sont capables de voir à 30, 40, 50 ans de distance le dernier élément extrêmement intéressant pour ce qui concerne la fondation Onassis, c'est la question de la théorie politique, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils accueillent des représentations de théâtre contemporain, chorégraphique contemporaine extrêmement intéressante, qui font venir les troupes les plus brillantes, disons, de la scène d'innovation, de bonne création en Europe, en Australie, en Amérique, etc. Bon, ils ont les moyens de faire venir des troupes. En même temps, ils développent tout un cycle de conférences ouvertes au public, gratuites, qui sont... c'est important. C'est important parce que, évidemment, ça a une fonction... c'est évidemment à dessein. Où d'une certaine façon, on élabore un nouveau type de gouvernance. On a ce que les anglo-saxons appellent depuis quelque temps une espèce d'évidement de l'État. Et puis on a la Fondation Onassis qui élabore un nouveau type de gouvernance, un nouveau type de contrat social, on va dire, un nouveau type de place de l'État, dans lequel, d'une certaine façon, une espèce de concertation entre le domaine privé, le secteur privé, l'État qui reste là, mais évidemment avec une fonction complètement bouleversée, complètement sortie, si vous voulez, de la sphère de l'État-providence, et puis ce qu'ils appellent la société civile. Alors, c'est assez drôle parce que ils le répètent. Enfin, tout un tas d'universitaires viennent d'une certaine façon pour parler de ce truc. Et puis à un moment, on se dit, mais il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus qu'une espèce de société soi-disant harmonieuse où les gens vont dialoguer, où l'État aura une place extrêmement réduite et déterminée, législative. Et voilà, on voit une espèce de nouvelle société. Évidemment, de cette nouvelle société, on voit qu'il y a quand même énormément de gens qui sont exclus.
Voilà, justement, là, on est sur les débats. On va essayer de prendre des questions, mais donc, du coup, on conclut, on essaie de conclure. Après cette cartographie complexe, Vincent Carry, peut-être, sur ce sujet des fondations privées, comment est-ce que vous sentez comment vous positionnez, mais de manière générale, puisqu'on est vraiment sur la fin, avant de prendre des questions, sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui, des éléments dont on vient de décrire, qu'on vient de cartographier, au niveau de l'État français, on pourrait imaginer qu'il faudrait faire, au niveau européen, et vous, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut développer, selon vous?
Bonne chance.
Bonne soirée. Déjà, je voulais réconforter encore ma voisine en lui disant qu'il n'y a pas qu'en Turquie que les hommes politiques ont un complexe d'infériorité avec la culture, hein, et que en France, on en connaît un bon rayon, et on en a en ce moment qu'on entend bien parler régulièrement tous les matins, qui a un petit problème avec ça, il semblerait. Et qui ont d'ailleurs aussi un complexe d'infériorité pour revenir au sujet avec l'Europe, parce qu'on a quand même, au bas mot, les trois quarts des candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2017 qui sont entre souverainistes et très souverainistes, ce qui est aussi un état de fait qu'il faut prendre en considération. Sur la question des fondations et du secteur privé, nous, en tout cas, on a une ligne de conduite qui est extrêmement, extrêmement claire. D'abord, on peut faire le même constat, hein, ça a été vraiment brillamment résumé et j'ai appris en quelques minutes là. Le constat est à peu près le même, c'est-à-dire que la question de l'intérêt sous-jacent est évidemment constante, et de relation avec ce qu'on appelait encore un concept qui paraît assez has-been de l'intérêt général est une question constante également. Donc nous, on se pose évidemment cette question, ce d'autant plus que les grands groupes, un certain nombre de grands groupes industriels qui ont fait main basse d'ailleurs sur le secteur des médias avant de s'attaquer à celui de la culture, sont en train de rentrer en force là où l'État laisse de l'espace. C'est-à-dire que la notion d'évidement, elle est moins, de mon point de vue, le fait d'une stratégie des groupes industriels que le fait de la nature avoir du vide. Dans le domaine de la musique en particulier, on en sait quelque chose. Bon. Mais donc on a aujourd'hui ces groupes qui arrivent. Et puis on a un autre point de vue qui est celui de dans la survie, et c'est une des pistes de réflexion pour, en tout cas, comment est-ce que nous on essaye d'accompagner les jeunes porteurs de projets très concrètement européens, et qu'est-ce qu'on essaye de partager? Il y a la mixité du modèle économique, pas par choix encore une fois, mais je l'ai dit tout à l'heure, souvent par contrainte et par nécessité, parce qu'on vient de là. Et donc, il faut qu'on invente un modèle économique dans lequel il y a parfois un peu d'argent public, avec des objectifs, espérons d'intérêt général. Parfois, le secteur privé, sur un socle qui est de les amener sur notre terrain et de ne pas aller sur le leur, c'est extrêmement important. Et puis, notre audience, ce qu'on appelle les ressources propres, qui peuvent être... Bon, alors dans le domaine de la musique, plus que dans celui de l'art contemporain, par exemple, de la billetterie, des recettes de bar, des choses comme ça. Bon, donc on cultive, bien entendu. Derrière ce modèle de mixité des ressources, il y a une question qui est centrale et qui, à mon avis, occupe l'esprit de tous les porteurs de projets culturels aujourd'hui en Europe, en tout cas dans ces générations-là, c'est la question de l'indépendance. C'est comment est-ce qu'on construit son indépendance à travers ce modèle économique, et à l'inverse, comment est-ce qu'on ne subit pas une perte d'indépendance à travers le même modèle économique possible? Donc c'est évidemment un énorme sujet. Il est central parce que rien n'est possible dès lors qu'on ne garantit pas son indépendance, à la fois pour la pérennité, mais à la fois aussi pour l'intérêt même de porter un projet. Parce que moi, demain, je peux garder mon poste, si je dois dire, à un des programmateurs avec lesquels je travaille. Attends, excuse-moi, mais là, ce groupe-là, on ne peut pas le faire pour telle et telle raison. Tout s'arrête. Voilà. Même si on a construit une entreprise culturelle qui est, de mon point de vue, crédible dans toutes ses formes de légitimité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on essaye de partager avec nos amis de tout le continent européen et très au-delà. Il y a un deuxième, pour moi, un deuxième changement de mentalité dans le fait d'accompagner la culture, qui est de substituer la logique de la... Alors là aussi, hein, c'est un processus subi. Mais on en est arrivé à cette conclusion que de toute façon, on ne reviendrait jamais, enfin en tout cas pas de notre vivant, à l'ère glorieuse du financement public de la culture avec des ressources massives qui nous permettraient de travailler confortablement pour inventer nos projets. Donc ça, personne n'y croit. Donc on pense qu'une des solutions consiste à placer le financement public dans l'amorçage des projets et dans l'accompagnement positif pour essayer de construire la façon de trouver des ressources. Parce qu'à aucun moment, dans nos réflexions et dans nos évolutions, on s'est dit qu'on voulait sortir de la relation avec la collectivité. On n'a jamais pensé ça. Au contraire, une immense majorité des gens que je connais, même incroyablement sous-financés par leur collectivité locale, par leur ministère de la Culture, leur ministère de tutelle, par l'Europe, etc., incroyablement sous-financés et pourtant ô combien conscients, sensibles des intérêts collectifs, des intérêts de leur territoire. C'est souvent des militants incroyables de leur territoire, de leur quartier, de leur ville, de leur pays, etc. On le voit partout en Europe, des gens extraordinairement militants. Et donc, ils sont un peu prisonniers de tout cet environnement. Et il y a un truc aujourd'hui dont on nous rabat beaucoup les oreilles, et d'ailleurs, nous les premiers, parce qu'on travaille aussi sur ces questions-là, qui est la logique d'incubation, qui est un truc qui a pris énormément de place dans le débat public sur la question des entreprises, et qui apporte quand même une petite partie de réflexion sur comment est-ce qu'on peut aborder un projet culturel et essayer de lui donner les outils pour se pérenniser dans un contexte extrêmement grave, tendu, complexe, pessimiste, voire fataliste. Et là, il y a peut-être une piste de réflexion. Nous, on a construit et travaillé surtout en réseau avec beaucoup d'incubateurs de projets culturels en Europe, et on essaye d'amener les collectivités à dire, à minima, si vous ne pouvez pas vous engager sur un contrat de financement et de subvention pendant 10, 15, 20 ans ou pour toute la vie, aidez-les au moins à émerger et mettez le paquet au moins pendant 2, 3 ans et pour que les outils se construisent, que les lieux naissent, que les projets, les médias, les lieux culturels, les festivals puissent avoir une chance d'émerger et ensuite on verra ce qu'il advient. Voilà.
Et alors, quid de l'argent européen? Parce que vous le disiez aussi, il y a un budget européen à la culture.
D'abord, il est extrêmement, il est incroyablement faible. Il est incroyablement faible parce que je pense que c'est une erreur stratégique historique, c'est que les problèmes de perception que nous avons du continent européen aujourd'hui et même du projet européen seraient totalement différents si on avait investi massivement dans la culture. Alors ça, c'est une banalité épouvantable, mais il n'empêche que ce que tu disais tout à l'heure me faisait penser à quelque chose de tout simple. Pourquoi est-ce que les groupes économiques investissent dans des éléments de soft power aujourd'hui et pas notamment la question des médias, notamment la culture, notamment tout ce qu'on appelle les signaux faibles aujourd'hui, etc. Pour une raison très simple, c'est que c'est déterminant dans la construction de nos sociétés futures. Et ils ne sont pas cons, ils le savent très bien. Bon, si l'Europe aujourd'hui, l'Europe avait construit ses emblèmes culturels, je veux dire, on a un patrimoine extraordinaire, on a des icônes, mais qui ne sont pas des icônes générationnelles, qui ne sont pas des gens qui portent du sens pour les générations à venir, pas autant que Tarantino, quoi, disons. Si on veut dire, citer, chercher un Américain, je me dis, merde, je n'ai pas en trouvé de vraiment intéressant. Mais, bon, ça paraît très important. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Même les festivals de musique électronique, par exemple, pour citer un secteur qui nous est proche, et mea culpa, mais on a beaucoup plus de facilité historique à programmer un artiste américain qu'un artiste grec, norvégien ou portugais. Pourquoi? C'est quand même complètement incroyable, parce qu'on a perdu cette bataille-là il y a longtemps. Et si on veut essayer de remonter la pente, et bien évidemment, il faut investir très massivement dans la culture. Je pense que le secteur privé le plus agressif sur le plan capitalistique, malheureusement, l'a mieux compris que la collectivité. L'Europe, néanmoins, a compris une chose dans le programme Europe Créative, c'est un peu à la marge cette logique d'investissement. C'est pour ça que je disais que European Lab n'est plus financé par l'Europe aujourd'hui, parce qu'elle l'a été les trois premières années. Voilà, on a eu un financement qui représentait en gros 30% de notre budget. Et au bout de trois ans, on l'a perdu. C'était programmé. Voilà, c'était un amorçage. Et il se trouve qu'on prépare la 7e édition et que le projet existe toujours. Parce qu'en trois ans, on a eu le temps d'essayer d'inventer un modèle. Voilà.
Alors, c'est très positif. Je pense qu'on va, pas terminer là-dessus. On va prendre vos questions si vous en avez, puisqu'on a abordé plein de sujets extrêmement passionnants qu'on a plus souvent qu'effleurés. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou pas ?
J'en ai eu pour Madame Cadeau. Je n'ai pas lu votre article de Libération. Est-ce que vous pouvez me dire quand cet article est parmi
la, veille de la fête nationale, le 13 juillet. C'était très. Bon, c'était pas du tout un article patriotique.
Dotez-moi d'un doute, parce que vous avez semblé d'emblée, je ne connais pas la teneur de votre article, mais vouloir déboulonner les pères de l'Europe, à savoir Robert Schuman et.
Les déboulonner, non, mais on déboulonne des statues en Europe de l'Est parce que la culture change, le temps change et que l'usage passé de l'histoire n'est pas toujours efficace.
Vous ne pensez pas que, quand monsieur parle de marqueur, vous ne pensez pas que pour ma génération, ces hommes ont quand même été, restent les fondateurs de la construction européenne.
D'une construction européenne à 6 de l'après-guerre.
D'accord. Mais là, il faut partir de l'origine. Donc, pourquoi vouloir à ce point chercher le côté malsain des choses, chercher dans leur personnalité ce qui a pu, ce qui a pu être dérangeant. Au point que Robert Schuman, par exemple, vous le savez certainement, il est en train de devenir saint, entre guillemets. Bon, voilà. Donc, et moi, je connais, je suis d'origine mosellane, Messine, et nos familles, on connaissait très bien la famille autour de Robert Schuman, dont ils étaient grands admirateurs. Bon, vous prétendez qu'il a été, qu'il a voté pour l'installation de Pétain. Bon, ça, c'est de l'histoire. Bon, vous ne pouvez pas gommer l'histoire. Bon, ne s'est-il pas racheté tout de suite après la guerre?
Alors, je vous mets très à l'aise, je n'ai pas moi de morale à faire sur Schuman ou Monet, etc. Ce que je disais, c'est qu'ils sont utilisés d'ailleurs comme ça par les seuls partis europhobes, ou les micro-partis. Il y a quelqu'un qui s'est fait une grande spécialité de faire des conférences pour expliquer que Monet fricotait avec la CIA, Schuman était un ancien collabo, etc. Moi, ça n'est pas mon propos. Et je me dis juste qu'avoir cette révérence, cette sacralité dans l'histoire de la construction européenne aujourd'hui n'est pas payant pour un certain nombre de gens qui sont plutôt des jeunes et qui du coup tendent une oreille très très attentive aux théories du complot. Et je pense que l'usage de l'histoire pour nous parler d'un projet européen qui est notre projet aujourd'hui est malheureusement aussi pris dans cette gangrène d'europhobie actuelle, et je ne pense pas que ce soit l'appel récurrent au père fondateur qui peut nous en sortir. Je ne dis pas du tout qu'ils n'ont pas été, à leur époque, de grands novateurs, etc. Je pense que...
Beaucoup de gens restent les pères fondateurs, c'est des personnalités qui ont donné leur vie complète à ces constructions d'Europe.
Je ne dis pas l'inverse, mais je pense que cette solution-là, ce récit-là, ce roman européen-là, n'est pas aujourd'hui celui qui nous aide à sortir de la crise.
Oui, exactement. On va peut-être en parler après. On va essayer de voir si.
Madame. Ça me rappelle.
Madame.
Je termine.
Ça, c'est un gros débat.
Au moment du choix des candidats pour la Commission européenne, j'ai été horrifiée de voir les tabloïds marteler toutes les imperfections de Jean-Claude Juncker, par exemple, sa personnalité.
On peut être critique et étudier de façon critique l'histoire de la construction européenne tout en étant pro-européen. Bon, c'est juste ça que je veux dire.
Alors, il y a juste une dame tout au fond, madame.
Oui, il y a même de l'angle. Pourquoi avons-nous renoncé à l'espéranto?
Oh là là! Ah, le vaste sujet. Alors là, je vous laisse. L'espéranto, c'est... Alors déjà, petit rappel de ce qu'est l'espéranto.
espéranto, langue commune inventée, est-ce que l'un de vous se sent légitime, se sent intéressé?
Madame, je vais vous répondre.
En espéranto.
Ah non, non, non.
Pour être honnête,
C'est une langue qui n'a pas d'inconscient, qui n'a pas d'histoire. Donc ça ne marche pas sans inconscient, si vous voulez.
Et parfois pas
il faut de l'inconscient, il faut qu'il y ait toute une histoire dans les mots, dans la langue. Il faut de l'inconscient, sinon c'est pas humain. Moi, c'est un peu mon idée là-dessus. J'aime bien l'espéranto, hein. Je trouve que je comprends très très bien le... Mais je crois que quand même l'important, c'est les conflits, en fait. C'est tous ces conflits qui, dès que quelqu'un apparaît en face de vous, c'est le désir, le conflit et tout, mais c'est ça. On ne peut pas faire ça, en fait. C'est la vie, quoi. On ne se comprend pas, on se comprend, on essaie de se comprendre. Mais en tout cas, on ne parle pas tous la même langue, non, ça. Personne. Personne.
Non, moi, ce que vous avez dit sur les fondations, ça m'a fait penser à la fondation Luma à Arles, où il y a à la fois une situation qui est un peu choquante par rapport aux rencontres. À un moment, géographiquement, que les ateliers étaient repris pour rencontrer qu'on en fasse autre chose. Et en même temps, j'entends beaucoup de gens me dire qu'ils sont en train de créer de l'emploi sur place, ils font bosser des gens sur place pour créer plein de choses. Et est-ce que c'est pas, à la fois c'est un calcul, mais en même temps, est-ce que c'est pas un moindre mal dans la situation de chômage extrême que Arles connaît, par exemple?
Éventuellement, évidemment que ça crée de l'emploi, oui. Enfin, ça crée une certaine forme d'emploi en Grèce. Alors, je vais répondre pour la Grèce parce que c'est assez intéressant. J'en ai pas parlé parce que, franchement, on pourrait en parler pendant 10 heures. Enfin, moi, en tout cas, c'est quand même extrêmement intéressant. Hein. C'est assez intéressant de voir à quel point, justement, la fondation en question, la fondation Nassis, d'une certaine façon, utilise de fait. L'art comme laboratoire de nouvelles relations de travail, de nouveaux contrats, d'une nouvelle forme de contractualisation, si vous voulez, du lien de travail. D'exploitation, c'est des liens personnels. Tu es responsable de telle ou telle production, en général le metteur en scène. Tu prends ça, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 10 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, 3 000 euros, et t'en fais ce que tu veux. Donc tu payes comme tu veux les comédiens. Il y a une espèce de... Vous voyez, ça, c'est juste un exemple pour dire qu'il y a de nouvelles formes de contrats, ou de non-contrats plutôt, de travail, en fait, de non-contractualisation du travail, qui se mettent en place. Et qui, évidemment, à partir de là, on peut très bien imaginer qu'à partir du monde artistique, du monde du théâtre, etc., ça essaime. Donc c'est d'une certaine façon la situation quasiment inverse de celle qui est en France avec l'intermittence, où là, d'une certaine façon, l'intermittence, c'est à partir du monde du théâtre, un type de revenu et un type de contractualisation qui pourrait essaimer positivement à l'ensemble du monde du travail précaire, hein, qui est quand même... une grande partie de la jeunesse qui travaille. C'est un peu l'inverse, à mon avis, ce qui est en train de se passer en Grèce.
Alors pour conclure, je voulais juste... dans la conclusion, pardon, dans laquelle je m'inscris, pas forcément à la fin de la conclusion. Il y a quelque chose d'évidemment courageux qui émane de vos personnalités. Je pense évidemment à chez vous qui va rentrer en Turquie et qui prend un risque très fort. On espère qu'elle ne sera pas emprisonnée, mais aussi vous, dans votre capacité à vous adapter à des situations difficiles, mais qui ne font pas perdre espoir. Donc voilà, je vous remercie.
Et je voulais dire quelque chose que Racine, je viens de remarquer, Racine, m'a fait penser à quelque chose que j'aimerais... partager avec vous, je ne sais pas si à quoi ça sert, mais la Turquie essaye, a des relations avec la Commission européenne économique depuis les années 60, et on essaye, on rame depuis des décennies pour être partie de l'Europe. C'est un rêve auquel, en termes de valeurs, européenne, je souscris absolument. Après, mon opinion personnelle est que l'Europe a déjà assez d'affaires entre ses mains que avoir la Turquie aussi. Mais ce que je voulais vous dire, et que quand j'entends un petit peu la perspective européenne, c'est que j'espère que l'Europe, étant quelqu'un qui peut-être peut prendre un peu plus de recul que vous, ira mieux. Je trouve que le projet européen est un joli projet. C'est un projet très noble. C'est un projet qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en un sens, a créé pas de paix. Et venant d'une région qui est assez mouvementée, j'espère qu'elle pourra trouver ce que vous parlez en termes d'art. Moi, j'en rêve dans mon pays. Donc, ce qui manque chez vous, si moi j'ai le 1/10 de ce que vous avez, j'en serais ravie. Mon espoir pour vous, c'est que non seulement peut-être la Turquie, mais que l'Europe ira mieux et le monde ira mieux, parce que je pense que nous passons par un contexte temporel qui est assez étrange.
Juste, moi, vraiment, à chaque fois que j'entends le mot valeur européenne,
tu t'arrêtes pas de rebondir sur mes mots.
Non, mais c'est. Non, je pense qu'il y a vraiment un problème là. C'est pas possible. On efface systématiquement toute l'histoire coloniale en disant valeur européenne, mais c'est pas soutenable. Je veux dire, et je le dis d'une certaine façon, je suis né à Paris, ma langue maternelle c'est le français, je me sens absolument français et grec en même temps. Je le dis donc d'une certaine façon de l'intérieur, de l'Europe. Mais là, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et qui est lié à la fondation de l'Europe elle-même. On a un truc très très particulier qui est le plus jamais ça.
Et le pardon à l'Allemagne.
Non, c'est très important. Et le pardon à l'Allemagne, absolument. Ça, c'est intéressant. Enfin, plus jamais ça, ça focalise la barbarie sur une période, sur un événement qui est évidemment sans exemple. Mais d'une certaine façon, on ne parle pas de la barbarie française, on ne parle même pas de l'occupation, on ne parle surtout pas des crimes coloniaux de la France, de la Belgique, de l'Allemagne évidemment plus ancienne. Ça pose quand même un problème, c'est-à-dire qu'on aurait quand même intérêt, si on a vraiment envie de repenser l'Europe, à la penser contre l'Europe, à la penser contre l'Europe coloniale, qui est d'une barbarie absolue. Hein? Alors, évidemment, le propos, là, dans ce que je dis, qui peut paraître un peu polémique, le propos n'est évidemment pas de dire, de relativiser l'horreur absolue qui est refusée par le plus jamais ça, c'est-à-dire la barbarie nazie. C'est pas du tout le. Mais il faut quand même regarder les autres barbaries qui marquent toute l'histoire du XXe siècle, qui viennent d'avant, et qui sont constitutives de la richesse européenne, et qui sont constitutives d'une certaine façon du sentiment d'être des citoyens avec des droits. Hein? On est des citoyens avec des droits, et en même temps, 8 mai 45, on assassine toutes les personnes qui se trouvent sur la place de Sétif. Et ce sont des gens qui nous représentent. Donc ça pose quand même un sacré problème. Moi, je crois que si on doit vraiment repenser l'Europe, d'abord, il faut lever complètement, et de façon assez agressive, et avec une intervention assez agressive, aussi bien des militants que des citoyens, que des historiens, tout cette espèce de non-dit constant, de temps en temps levé par tel film, par telle intervention, mais en fait qui correspond à une espèce de silence massif. Pensez quand même au silence de la guerre d'Algérie ici. Et il faut lever ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on va fonder et refonder comme Europe? Mais ça sera toujours quelque chose qui reproduira le silence colonial. Et c'est pas acceptable. Donc plus jamais ça, on ouvre. Quoi. Non, je dis ça parce que exactement le même type de vision de l'Europe, les valeurs de l'Europe, l'élégance de l'Europe, la beauté de l'Europe, voire la beauté des femmes européennes, la beauté des bâtiments européens, etc. C'est exactement le même type de choses qui ont nourri l'intégration européenne de la Grèce. Et ça, ça a quand même conduit à une catastrophe absolue en termes socio-économiques dans le pays où je vis. C'est-à-dire cette espèce d'idée complètement débuleuse qui finalement conduit à une espèce de consumérisme pendant les années 80, encouragé par la social-démocratie grecque. On va vivre comme les Européens, on va acheter des bagnoles, etc. Et tout ça forme une espèce de mixte dans la culture grecque qui est, on ne peut plus, problématique, c'est-à-dire le grand autre européen qu'on voit comme une espèce de, je ne sais pas, Grace Kelly. Ça ne va pas, quoi. Enfin, ça ne va pas. Ça va pas.
Je trouve juste que tu es un peu dur dans le sens où je comprends exactement ce que tu veux dire, mais venant d'un pays où, en un sens, la femme est ridiculisée à un objet, où le droit de l'expression et la censure persistent, où la culture est vue comme juste de la musique arabesque, je comprends absolument ce que tu veux dire, mais que les piliers, en un sens, de ce que des pays qui regardent à l'Europe, l'Europe pour la Turquie a été un très bon modèle. Oui, certes, il y a son historique, mais ça a été un modèle auquel nous avons essayé, t'imagines un pays comme la Turquie a essayé de faire des réformes, de se poser des questions, d'avoir de l'introspection et de faire des changements radicaux au sein de ce qui faisait d'elle une de ses traditions. Je comprends absolument ce que tu veux dire, mais je trouve que tu es un peu dur. Non. Quand tu regardes, il faut prendre aussi d'autres pays qui regardent à l'Europe. L'Europe ne représente pas seulement Grace Kelly. L'Europe représente aussi une conférence comme ce soir que moi je ne pourrais pas avoir dans mon pays.
Non, mais absolument.
Bon, encore un mot sur cette fameuse génération à laquelle je n'appartiens plus. Je crois que.
Le très vieux Vincent Carré.
Je crois qu'eux, ils ont en tout cas un truc qui me paraît absolument évident, c'est que leur idée de l'Europe, c'est bien d'en inventer une autre. Hein. Ça, c'est une évidence. Et en large partie, en opposition à un certain nombre de malentendus, dont ceux que tu évoques, mais je pense beaucoup d'autres. Mais en même temps, à un moment de leur histoire et à un moment de notre histoire, où il y a quand même un risque de extrêmement fort, et je crois qu'on n'est plus du tout là dans le risque anecdotique de réapparition de formes populistes extrêmement violentes dont ils seront témoins et comptables, je crois que la question se pose un tout petit peu différemment, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir leur redonner un peu d'enthousiasme démocratique, quoi. Et ça, je ne sais pas bien comment on va y arriver.
Alors, juste Christine, parce que vous parlez d'un récit, vous avez dit,
il y a une citation. Il semble que cet échange entre vous, moi, c'est
entre grec et turc.
Non, mais je pense que là, c'est vraiment, on est au cœur de ce qui est aussi une des visions de la crise, qui est une crise de nos représentations de ce qu'est ou ce que devrait être l'Europe. Au fond, ce dont vous parlez, c'est de vos représentations de l'Europe qui ne collent pas tout à fait à des valeurs ou à des représentations des valeurs, ou qui ont pu aussi quand même avoir des effets, y compris des effets bénéfiques. Parce que même des représentations fausses, par exemple, en Europe, les femmes sont libres. Elles ne portent pas le burkini. Elles sont tellement libres que dans la rue ou au bureau, on peut claquer l'élastique de leur culotte, comme dit un ministre. Et ça ne pose pas de problème. Mais c'est cette représentation-là de la femme européenne, d'ailleurs on utilise le singulier, c'est la femme européenne, elle est parfois fausse, mais elle peut avoir des effets véritables, bénéfiques, comme un objectif à atteindre, éventuellement. Même une idée fausse peut avoir des effets véritables. Pas tout le temps, mais ça peut arriver aussi. Donc changer ces représentations-là, oui, je pense que c'est effectivement une des clés du débat.
Une dernière question, mon Dieu, c'est terrible. Je crois qu'elle elle levait la main depuis...
Mais l'Europe ou pas
à l'Europe, je me dis qu'il faut qu'on arrive à avoir du tact en fait, qu'on arrive à avoir un peu d'empathie avec toute l'humanité, surtout question de frontières, réfugiés, etc., les accords entre la Turquie, la Grèce, l'Allemagne qui les soutient, etc. Donc en fait, je crois que le mot vraiment qu'il faut souligner, c'est le néolibéralisme, et en fait, quand on veut arriver à ses fins, on y arrive. Donc en fait, les valeurs européennes, etc., il y a quelque chose qui se casse la gueule à ce moment-là. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vraiment de proposition d'issue, mais je pense qu'il faut chercher vraiment contre toutes les stratégies politiques et tout ça. Moi, évidemment, ça me délecte, par exemple, en Turquie, que le terrorisme, c'est devenu un peu un mot banal maintenant, quand on parle d'État islamiste, de Kurdes qui militent, etc., avec tous ces marchés des armes qui intéressent normalement à tous les pays. Enfin, je veux dire, voilà, on se voit là facilement dans plusieurs pays, je pense.
Voilà, alors je pense qu'à 21h42, sur cette note d'espoir, on termine. Merci beaucoup.